Non, mais... Merci beaucoup. Non, effectivement, c'est difficile de prendre la parole après. C'est difficile de prendre la parole après, mais c'est aussi mon chemin. C'est-à-dire que on s'est rencontrés dans les années 90. Moi, je revenais d'une décennie en Afrique australe, où j'étais à une période un peu difficile. Hein. C'était la lutte de libération de la ANC, c'était la lutte de libération de la SWAPO. Moi, j'étais à la frontière de la Namibie. J'étais à la frontière justement où passaient tous les rebelles de l'ANC, on les faisait passer, transiter, enfin bref, j'avais une posture quand même plutôt de militant à l'époque, c'était quand même les années 70, 60, fin de 68 qui étaient passées par là. Pour moi, la question du racisme ne se posait plus. Et quand j'étais en pleine dans cette militance, bon, je travaillais, je voyais des malades, bien évidemment, je reviendrai dans un instant, mais un jour j'ai reçu un téléx, parce qu'à l'époque c'était le téléx, imaginez, hein, c'est WhatsApp et tout, hein, c'était téléx, tiki-ding-ding, Hunting Riders, etc. Et où mon frère me disait, il y a une super manif qui se passe en ce moment, c'est touche pas à mon pote. J'ai dit, putain, mais où ils sont passés là? On est en 85, moi c'était ça faisait longtemps qu'on avait résolu ce problème. Ben non, il semblait que ça se redéfinissait, ça repartait, et qu'il était nécessaire de faire une manifestation, et puis un mouvement, et puis tout un truc sur SOS racisme, touche pas à mon pote. Et à l'époque, moi je l'ai très mal vécu, parce que j'étais dans une posture extrêmement inconfortable, j'étais blanc, oui, dans un pays en lutte contre des blancs, et plutôt du côté des Africains. Lesquels Africains me voyaient comme un blanc, et les blancs du coin me voyaient comme un traître. Bon, bref, ça a été 4 années un peu existentiellement difficiles qui m'a mis en contact ensuite sur les questions pratiques, sur la pluralité des soins. Je n'y reviendrai pas. Hein, Ahmed est là, il connaît beaucoup mieux que moi au niveau psychologique et au niveau somatique à quel point la science n'est qu'un des aspects de la cure. C'est-à-dire que le traitement, quel qu'il soit, passe énormément par les référents culturels, identitaires, communautaires au sens partage d'intérêts, bref, à tout ce qui fait la socialité de l'être humain et qui va jouer un rôle aussi important, j'irai pas jusqu'à dire plus, mais aussi important au moins que toute notre technologie scientifique. Et ça, j'y étais confronté en direct. Donc je suis revenu en France et commencé à travailler sur les questions d'enfance dont on parlait tout à l'heure avec Michel. Et je commençais à travailler sur la question des enfants des rues, et je suis confronté à une autre façon de voir le monde, qui est la façon totalement marginale, ce que j'appelais l'interstice, c'est-à-dire ces gamins qui sont à la limite de l'enfant sauvage. Vous savez, ce film assez célèbre, des enfants, de cet enfant récupéré alors qu'il avait été, soi-disant, élevé par des loups. Bref, encore une fois, une façon différente de voir le monde, de s'y repérer, et qui perturbe complètement la société. Et c'est là où on s'est rencontré avec Étienne, parce que moi j'étais dans une quête de construction théorique, et j'avais une très grande soif justement d'essayer de structurer ça. Et il a eu la gentillesse de m'inviter dans ses comités de pilotage du tribunal pour enfants de Paris, alors même que j'étais un médecin absolument pas du tout formé au droit, absolument pas et pas du tout compétent dans le domaine, mais j'apportais un regard plus clinique sur des objets qui étaient figés dans le droit tel que Étienne l'a décrit tout à l'heure. Et c'est là, lorsqu'Étienne m'a fait connaître aussi Pierre Legendre, où j'ai commencé à réfléchir sur les questions d'institutionnalisation, des mécanismes qui font que toute société humaine, quelle qu'elle soit, et ça j'ai pu le vérifier un peu partout au cours de mes différentes pérégrinations, et en particulier singulièrement au Brésil, mais pas seulement, toute société a des processus d'institutionnalisation qui font appel à un certain nombre d'éléments absolument irrationnels et fondamentalement irrationnels. Nos propres méthodes scientifiques, médicales, juridiques, sociales, éducatives font appel, lorsqu'elles sont mises en œuvre au contact de la population, à de l'irrationnel, à de l'imaginaire, à de la croyance, à de la sensorialité, à de la corporéité, à tout ce que j'ai après construit dans ma thèse en sciences de l'éducation sur l'éducation pour les populations en grande précarité, en essayant justement de formaliser ce type d'approche. Et formalisant ce type d'approche, ça m'a permis de comprendre un peu quels sont les invariants sur lesquels l'interculturalité peut essayer de se fonder. Alors, d'abord une légitimité. Une légitimité, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à essayer de se comprendre. Et la légitimité, moi je la puise aussi dans la souffrance que vivent les travailleurs de première ligne, quels qu'ils soient. Que ce soit les juges pour enfants, que ce soit les juges, que ce soit les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, les éducateurs, les médecins, les... Il y a le séminaire à Créteil, là, Olivier, qui est arrivé tout à l'heure, auquel il participe, qui rassemble des acteurs de première ligne, donc au contact de la population, qui traduisent chaque mardi où on se retrouve une grande souffrance, parce qu'ils sont pris entre le marteau de l'institution qui leur donne des injonctions de faire, de dire, de remettre de l'ordre, et une population qui leur dit « mais on n'a pas besoin de ça ». On n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous nous écoutiez, on a besoin que vous nous parliez, on a besoin que vous nous compreniez. Et comment est-ce que moi, travailleur social, je puis comprendre si je ne fais pas le travail personnel sur mon inconscient, sur ce que je véhicule, ce que Étienne disait, ce qui est derrière notre occiput. Et ce qui est derrière notre occiput, et ça, ça fait l'objet justement de tout le travail dans le livre et du travail pédagogique que j'ai pu mener avec un certain nombre de partenaires, ici ou ailleurs, avec les limites dont qu'on soulignait tout à l'heure. Donc Marie-Claire disait qu'on avait arrêté à l'IFSI de Gonesse, mais on a arrêté au rectorat de Versailles aussi, on a arrêté à l'Institut de puriculture de Paris, c'est vrai, sur l'interculturalité, parce que ça gêne un certain nombre de participants. Et quand je dis un certain nombre de participants, ce n'est pas forcément ceux qu'on a en tête, le péniste, etc., les souverainistes. Non, 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 pas du tout. C'est des gens beaucoup plus ancrés dans leur identité, reconstruite. Dans un précédent ouvrage, j'avais, c'était, comment elle s'appelle, enfin, c'était une psychanalyste, justement, Dominique vient de partir, elle m'aurait, Yasmina Picard, voilà, qui avait parlé de l'histoire avec un Y, c'est-à-dire l'histoire revisitée, un peu hystérisée. C'est-à-dire que chacun... en fait, reconstruit sa propre histoire, sa propre tradition au quotidien. Et que, bah, quelquefois, quand c'est hyper hystérisé, eh bien, on va se plaindre au directeur pédagogique en disant « oui, il ne faut pas qu'on en parle, là, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux qu'on reste tel que nous sommes, dans des conflits latents, implicites, et qu'on maîtrise bien, dont on maîtrise bien les enjeux. » Alors que le travail de première ligne, et puis moi, en tant que citoyen, mon engagement citoyen militant, je pense que l'institution a une fonction de régulation absolument essentielle. Et que si cette institution est essentielle, eh bien il faut lui donner les moyens de travailler. Et pour lui donner les moyens de travailler, il faut qu'elle dépasse, et qu'elle parvienne à faire dépasser à ses professionnels, ses limites auxquelles ils sont confrontés. Et ça, ce travail personnel, eh bien c'est ce qu'on appelle le refoulé colonial. Et bon, alors, tous celles et ceux qui ont fait partie de mes enseignements savent à quoi je fais référence, hein, des petites lectures qui bousculent un peu les imaginaires, qui renvoient au fait que nous sommes aujourd'hui encore, en 2019, tout à fait aptes à prendre pour argent comptant un discours parfaitement colonialiste, sans se poser de vraies questions. Alors là, dans les enseignements, quand je montre ça, je fais lire un texte qui t'avait fait un pastiche.
C'est vraiment ça, hein. c'est de grande urgence.
Et généralement, il y a un grand silence après. Quand je dis, ben voilà, je ne sais pas si Olivia pourra raconter son vécu, mais il y a généralement, après ce texte, il y a un grand silence, disant, ah ben merde alors, c'est vrai, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, pourquoi ? Mais parce que nous sommes aussi dans ce bain médiatique qui renvoie en permanence à ce discours qui est pervers, parce que ce discours, quand je dis pervers, c'est-à-dire qui est détourné de son objet initial. On est parfaitement conscient, quand on est travailleur de première ligne, de ce que c'est que le racisme, de ce que c'est que les stéréotypes. On se dit, il faut pas, c'est pas bien, il faut qu'on ait travaillé. Sauf que on n'est pas du tout conscient que le tourisme exotique est aussi une sorte de colonialisme. On n'est pas du tout conscient que le geste caritatif fait partie du geste colonial. Et que vouloir faire le bien aux autres, ben c'est justement cette colonialité à laquelle Étienne faisait référence tout à l'heure. C'est-à-dire, à partir du moment où on essaye de faire le bien pour les autres, eh ben on a tendance à prendre le pouvoir. sur les autres, et à imposer ce bien, quoi qu'il arrive, qui est notre bien, tel que nous le considérons. Et ça, je dois dire que l'éducation pour la santé m'a beaucoup appris à cet égard-là, parce que un des principes éthiques auxquels on fait réfléchir les étudiants et les chargés de projet, les acteurs de terrain, c'est de se méfier de cette volonté de, en permanence, vouloir faire le bien des autres, aux autres. C'est un principe qui se libelle tout simplement, c'est le respect des équilibres individuels et sociaux. Savoir que tout comportement aussi nocif pour la santé, semble-t-il de prime abord, est un état d'équilibre. Et que avant de prétendre modifier ce comportement de santé, il faut comprendre dans quel état d'équilibre se trouve le sujet. Et savoir quels sont les bénéfices secondaires qu'il tire de cet état d'équilibre. En dentiste, avec mes étudiants dentaires, je leur fais comprendre que leur grande frustration de voir les populations en situation de précarité ne pas venir au programme de soins bucco-dentaires alors qu'ils sont purement gratuits, eh bien ça passe par une fracture de l'auto-estime. Et que tant qu'ils n'ont pas compris que d'abord il faut s'aimer soi-même pour se prendre en charge et éviter de prendre des risques, eh bien ils continueront à être en échec.
Je peux juste, sur la notion d'équilibre, éviter de faire en sorte que ce soit simplement un équilibre plat. Il y a un principe fondamental à mes yeux, qui est un héritage du taoïsme, qui dit tout change. Et la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. C'est-à-dire que cet équilibre que désigne Stéphane avec raison, est lui toujours quelque chose de mouvant, qui n'est jamais donné et jamais acquis. Mais si on ne respecte pas l'idée qu'il y a équilibre, on détruit la possibilité même d'avoir une action qui soit réellement active et positive.
Mais comme tout change, c'est justement ça ce qui légitime l'intervention auprès des populations en très grande précarité. Voilà. C'est-à-dire que rien n'est jamais figé définitivement. Et que l'auto-estime, je vais me soigner parce que je le mérite. C'est ça, c'est L'Oréal qui a trouvé le meilleur slogan. Enfin, bref, donc quand l'institution se mêle justement d'éduquer, se mêle de soigner, se mêle de juger, de remettre de l'ordre dans la société, ou se mêle de venir en aide à un travailleur social, elle va le faire avec ses propres mots, avec ses propres concepts, qu'elle va imposer, qu'elle le veuille ou non, à l'usager. Elle va nommer l'usager, elle va le nommer malade, elle va le nommer délinquant, elle va le nommer élève, elle va le nommer bénéficiaire, en fonction de son propre registre, et va donc engager toute une relation en fonction de cette nomination, avec une mobilisation de concepts. Ça va être des soins, ça va être du châtiment, ça va être de la pédagogie, ça va être des aides sociales. Bref, chaque institution va finir par travailler à ça, et nous sommes confrontés aujourd'hui, en 2019, à un phénomène de ciseaux. C'est à la mode maintenant, on est pris dans les ciseaux. Le premier ciseau, c'est que le néolibéralisme va engager toutes les institutions les plus en contact avec la population dans une course à la productivité. Et qui dit productivité, dit numérisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de secteur dans lequel on n'a pas d'indicateurs chiffrés. De la précarité, c'est épicéa. En fonction de l'état de vêtements, etc., s'il est alcoolisé ou pas, on va catégoriser de 0 à 10 s'il est précaire ou pas précaire. L'école, ça va être le PISA. En fonction, si c'est additionné 2 et 2 et pas, on va... Le petit bébé moderne, aujourd'hui, ne peut plus arriver dans la société sans qu'on lui fasse un Apgar. On va voir s'il respire bien, s'il crie, etc. Et on va lui faire de 0 à 10. C'est-à-dire que nous sommes en permanence, dans toutes les institutions, toujours comptabilisés. Sous la pression du néolibéralisme. Alors ça a complètement changé le rapport, parce que le travailleur social, au lieu de voir devant lui des gens, il a devant lui un écran, dans lequel on lui demande de rentrer des chiffres. Alors comment est-ce qu'on rentre la culture dans les chiffres? Là je vous pose la question. Comment est-ce qu'on rentre la culture dans les chiffres? Eh bien, ça n'existe pas. Tout simplement, le tableur Excel dit « Ah non, désolé, cette rubrique n'est pas valable. » hein, ou alors erreur 404 sur internet, voilà, votre ticket n'est plus valable. Donc tout ce qui est la question de la diversité de la perception du monde, la diversité, pourquoi moi, pourquoi aujourd'hui je suis malade de cette façon, ne peut pas rentrer dans le travail quotidien du travailleur social. Donc premier, c'est le premier ciseau. Le deuxième ciseau, c'est que ben, on dit aux gens, ben, maintenant que c'est rentabilisé, maintenant que c'est productivisé, eh bien on va pouvoir réduire les effectifs. Hein, on peut automatiser tout. Il y a maintenant des bornes Pôle emploi dans tous les CCAS pour que les gens puissent réactualiser leur situation sur une borne interactive. Sauf que bah, il faut quand même qu'il y ait un agent de Pôle emploi qui aide à remplir la borne interactive parce qu'il y a des agents qui n'y arrivent pas. Or, est-ce que c'est plus gratifiant pour un travailleur social de dire à quelqu'un « on va voir vos droits, moi je vais essayer de vous dépatouiller » ou « je vais vous aider à taper sur le code sur la machine » ou est-ce que le travailleur social peut trouver une gratification personnelle là-dedans? Donc c'est le deuxième ciseau. C'est-à-dire que finalement, on va réduire le personnel au contact. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les urgences sont en grève, il se passe qu'il y a une directrice d'école là qui vient de se suicider, et qu'on voit dans les journaux des gens qui, des acteurs de l'éducation, qui disent « ah oui, on a des problèmes avec les familles non francophones ». Voilà, et ça va encore retomber toujours sur le même problème. Voilà. L'usager doit s'adapter à l'institution, et c'est là donc un des chapitres du livre. Quand je parle d'interculturalité, ça veut dire qu'il faut arrêter de tout faire porter le poids de l'étrangeté sur l'usager. C'est-à-dire, il faut que l'institution parvienne à réagir en termes de situation d'altérité et fasse réfléchir ses professionnels en termes de situation d'altérité. C'est-à-dire que l'altérité de l'usager que j'ai en face de moi, j'en porte une partie de la responsabilité en tant que vecteur de l'institution. Ce n'est pas à lui d'apprendre le français, c'est ce qu'on a fait à la DEF, c'est à moi d'essayer de mettre en œuvre le processus pour qu'il bénéficie au même titre que n'importe quel autre cotisant social qu'il est, de l'éducation thérapeutique du patient. Et donc de former, d'identifier, de former et de cadrer des interprètes qui lui permettent de bénéficier des mêmes services que les autres. C'est, alors bien évidemment, mes exemples sont plus au niveau de la santé qu'au niveau de la justice, parce que malheureusement, là aussi, on a été éjecté, comme depuis le rectorat de Versailles, mais du tribunal pour enfants et du laboratoire d'anthropologie juridique. Mais c'est tout ce propos qui est de réfléchir à quelle responsabilité nous, en tant que membres de l'institution, nous portons dans la situation d'étrangeté. Parce que c'est très facile, lorsqu'on est une institution, dès lors que quelqu'un a un caractère de bizarre, d'étrangeté, de le rentrer dans son registre. L'étrangeté dans la médecine, eh ben c'est la folie, l'ethnopsychiatrie, ils sont tous fous. L'étrangeté dans la justice, c'est la reconduite à la frontière, il n'est pas en règle, il n'a pas ses papiers. L'étrangeté dans le social, ils sont tous au RSA, à l'AME, et ils nous bouffent notre aide sociale. L'étrangeté dans l'éducation nationale, c'est ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'enseignant qui se plaint que les parents non francophones lui font perdre beaucoup de temps. Alors que si on se pose la question en termes de situation d'altérité, là, on se débarrasse justement de ce processus de colonialité institutionnelle. C'est-à-dire l'institution en tant que vecteur d'imposition d'un modèle prédéterminé et qui en plus se fige actuellement dans les tableurs Excel. Arriver à en sortir. Alors, bon, et me dire ça, et puis je vais voir un petit peu, c'est la question qui était dans la table ronde, comment ça marche, ça, concrètement, sur le terrain. Ben ça marche. Ça marche avec deux écueils. Le premier écueil, c'est que tout le monde ne peut pas rentrer dans la démarche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs de première ligne qui sont dans ce registre non pas tant pour défendre des valeurs que pour asseoir un certain pouvoir personnel. Il faut le reconnaître. Il faut le savoir. Nous ne sommes pas des anges. Les héros, ça ne court pas forcément les rues. Et donc, on tombe en échec lorsqu'on remet en question ses pouvoirs personnels. C'est-à-dire qu'on a des professionnels, et c'est d'ailleurs les premiers qui vont se plaindre au directeur pédagogique en disant « ça ne nous intéresse pas cette question-là ». Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est l'usure. Et ça, j'accorde énormément d'importance à ça, en particulier quand je suis avec l'intervention auprès des cadres de santé, donc, dont certains d'entre vous vont accueillir les stagiaires, donc je vous remercie de nouveau, une nouvelle fois. Parce que les cadres de santé, encore une fois, c'est le domaine de la santé, tu me pardonneras, mais c'est mon terrain, hein, c'est mon terrain d'application, ils ont un rôle absolument essentiel pour permettre de verbaliser cette souffrance issue de l'interculturalité mal vécue sur le terrain. C'est-à-dire créer des espaces de parole, créer des endroits dans lesquels les professionnels de santé peuvent exprimer leur malaise, leur mal-être, leurs difficultés, afin de pouvoir les surmonter. Créer des espaces de parole où pourront se parler aussi les stéréotypes, le fameux syndrome méditerranéen, qu'aujourd'hui encore, on entend, j'entendais à la radio, sur France Culture, un ancien président du Conseil national d'éthique, quand même, parler du syndrome méditerranéen comme si c'était quelque chose hein, qui est une représentation de la perception et de la verbalisation de la douleur que les Méditerranéens auraient de façon beaucoup plus violente et active que d'autres populations. Ce qui est du pipeau. Personne n'a jamais prouvé ça. Ça s'appelle un stéréotype. Et pour reprendre le terme que j'essaye d'éviter, mais qu'Étienne a évité, de raciste, voilà, c'est-à-dire, mais c'est, moi j'appelle ça plutôt un stéréotype. Je préfère qu'on, de façon à ne pas engager des anticorps, puisque quand on parle de raciste, il y en a qui sortent leurs anticorps. Enfin bref, les Kalachnikov contre Kalachnikov, je pense que ça sert à rien. Parlons plutôt de termes qui essayent de calmer le jeu, parce qu'un stéréotype, on peut toujours lutter contre. Dans ce travail personnel. Donc le deuxième écueil, c'est ça, c'est la culture professionnelle qui s'instaure au fil des années par la routine, et qui, s'il n'y a pas véritablement d'effort en permanence assuré pour en sortir, eh bien va finir par forger les relations entre les équipes des travailleurs de première ligne et les usagers. Donc ça demande... C'est pas quelque chose de one shot, un seul coup. C'est quelque chose qui se travaille en continu, en permanence, et qui demande un soutien, bien évidemment, de la hiérarchie. Et puis, enfin, le troisième écueil, et ça c'est peut-être un des plus difficiles à surmonter, c'est qu'il faut faire parvenir aux professionnels à faire la différence entre la transcendance et l'immanence. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. La transcendance, c'est tout ce qui relève de là-haut, voilà, le mec double, le bon Dieu, enfin tout ce que chacun, chaque être humain entretient avec les questions existentielles, qui suis-je, où vais-je et pourquoi je suis là. Et au nom de cette transcendance, beaucoup de recommandations, beaucoup d'actions, beaucoup de comportements sont mis en œuvre. Au simple nom de cette transcendance. Mais là, donc du coup, si on n'a pas le droit, pas la légitimité pour travailler la transcendance, nous, en tant que travailleurs de première ligne, on va s'interdire d'en parler. Et pourtant, il y a des choses à faire. Et là, ces choses à faire, ben, c'est bien faire la différence entre, justement, ce qui relève de l'indicible et ce qui relève, au contraire, du quotidien, du matériel, de l'immanence. Et à Vitry, moi j'allais régulièrement, avant le ramadan, voir les imams pour qu'on parle de la diète hydrique, qui moi me préoccupait en tant que soignant, parce que ne pas boire alors qu'il fait chaud et que le soleil se lève à 5 heures et se couche à 10 heures, on peut fusiller un rein. Et les imams étaient tout à fait d'accord avec l'analyse que le Coran n'impose pas ce type de choses à un travailleur de force, à quelqu'un qui... etc. Mais ça, pour le travailleur de première ligne, c'est très important d'arriver à en faire la distinction afin de se prémunir de tout anti-religion, quelle qu'elle soit. Vous croyez dans un Dieu, c'est votre droit. Vous faites le choix de faire le ramadan, alors que vous allez courir un marathon. Mais ça, c'est votre choix personnel. Ça n'a rien à voir avec la transcendance. C'est votre choix individuel. Vous avez le droit, hein, en tant qu'individu, moi je ne suis pas là en train de vous dire c'est interdit par la loi. Non, non, il n'y a pas de transcendance de loi, il n'y a pas de transcendance laïque, il n'y a pas... Non, 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 vous avez le droit en tant qu'individu. Mais ne me dites pas que c'est au nom du Dieu. Prenez vos responsabilités en tant qu'individu, être humain tel que vous êtes. C'est une démarche qui permet d'envisager beaucoup plus sereinement, sur le terrain, tous les conflits qu'on peut retrouver qui sont convoqués au nom d'une prétendue transcendance. À partir du moment où on fait bien la part des choses. Et je finirai là-dessus, j'accorde énormément d'importance aussi, généralement quand on me laisse un petit peu de temps, je peux le faire, mais au DU j'ai pas assez de temps, sur la question de la laïcité. La laïcité n'est pas une transcendance. Pas du tout. Et au nom de la laïcité, on a interdit le voile. Non. La laïcité, c'est d'abord le premier article, c'est la liberté de culte est garantie par l'État. La liberté de culte est garantie par l'État. C'est ça la laïcité. En revanche, l'État s'interdit tout prosélytisme, quel qu'il soit. Alors ce qui crée cette ambiguïté fondamentale, alors les IPSI, là vous avez été au cœur de l'actualité en 2017, parce que est-ce qu'un élève, une élève infirmière a le droit de porter le voile? Question constitutionnelle. Est-ce qu'une élève infirmière a le droit de porter le voile? Eh bien, oui. Elle a le droit de porter le voile quand elle est auditrice d'un cours, parce qu'à ce moment-là, elle est usagère du service public. Mais dès lors qu'elle est en stage dans un hôpital public, elle est agent du service public et doit retirer son voile. C'est l'arrêté de août 2017 qui est le plus postulé. Alors, c'est une ambiguïté, bien évidemment, pas évident, mais c'est une ambiguïté qui tire sa source dans le principe de laïcité, qui est un principe de neutralité de l'État. Hein, tout le monde paye ses impôts, donc tout le monde contribue à l'État, donc tout le monde a le droit de recevoir le même service, quel qu'il soit, de la part de l'État, sans se voir imposer une quelconque conviction religieuse. Voilà. Donc, c'est l'objectif de ce livre, c'est de donner justement tout ce genre d'outils, de matériel, de méthodes qui permettent d'aborder sereinement, et j'insiste beaucoup sur la question de la sérénité, toutes ces questions qui sont violemment médiatisées et détournées de leur objet premier. Voilà, parce que maintenant, bien évidemment, je répondrai à toutes les questions. Et puis, je sais pas, Étienne, tu as peut-être, tu voulais